Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Bonsoir. Merci à chacun d'être là. Hey, on a quelqu'un qui veut nous appeler pour nous souhaiter bonne année. C'est Patrice puis Julie. Et je leur ai parlé en route. Puis ils ont dit, on peut-tu appeler la gang? Donc, je vais les appeler. J'ai même pas de... Ah oui, OK. Peux-tu prendre le micro, Ben? Ça sort de où, ça? Ici?
Allô?
Salut! Est-ce que vous entendez? OK. Hey, t'es sur le micro, là.
On voulait vous souhaiter la bonne et heureuse année 2018.
Est-ce que tu entends, Juliane? Oh yes, elle dit oui. Vas-y, continue.
Avez-vous entendu?
Oui, oui, on attend la bénédiction, là, les souhaits et la bénédiction. Non, on te souhaite aussi une très bonne année à toi, puis Julie.
Bonne année!
Bonne année aussi! OK, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Bonne année!
On vous souhaite une très belle année 2018, une belle soirée. Et on aurait bien aimé être avec vous ce soir pour défoncer l'année ensemble. Mais écoutez, on est ensemble en pensée, on vous aime. Et puis, on a hâte de vous revoir.
Oui,
que cette année soit remplie des bénédictions du Seigneur pour chacun d'entre vous. Que sa grâce et son amour soient rendus tangibles dans vos vies.
Amen, on vous écoute.
Amen.
Merci
Alors,
beaucoup.
Alors, c'est ça.
On vous souhaite pareillement bénédiction, santé, prospérité à tous égards et une richesse de la connaissance de Dieu.
Comment?
Et une richesse de la connaissance de Dieu.
Amen. C'est tout ce qu'on peut demander, c'est la plus belle richesse à avoir.
Amen. Qu'est-ce que tu allais dire? T'allais-tu dire de quoi avant que je te coupe?
Non, j'allais dire qu'on avait des saucisses enroulées de bacon au four et qu'on allait penser à vous en les mangeant.
Ah, c'est super, ça. Nous, on va manger du sucre à la crème en pensant à vous.
Bon, ben, ça marche. On vous aime. Prenez soin de vous autres puis au plaisir.
Au plaisir. On vous aime. Bye-bye.
Bye-bye.
OK. Good. J'ai eu de la visite... J'étais en train de finaliser mon message, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça devrait donner quelque chose quand même. Je me suis préparé pas mal toute la journée. J'ai eu François qui est arrivé un cheveu sur la soupe et il vous fait dire bonjour François puis sa copine. Alison. Yes. C'était le fun de les avoir. Stéphane est avec nous autres à soir. Bienvenue chez vous. Yes. Yes. Content de vous voir tous et chacun. OK. Fait que Père, je te prie pour ce message-là, Seigneur Dieu, que ce soit, prends quelque chose de petit, de faible, Seigneur Dieu, puis donne-y un sens, Papa, afin que mes amis soient édifiés par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Si je vous posais une question, qu'est-ce qui donne un sens à une histoire? Qu'est-ce que vous me diriez? Hein? Ça prend une fin. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Un auteur, hey, intéressant. Quoi d'autre? Un début, une fin. Un auteur, une intrigue, le nœud. un but. Tu sais, si tu enlèves l'intro et la conclue, c'est dur d'avoir un but. Hein? Ben, OK, vous êtes pas mal bon. Vous m'enlevez mon message. Je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer par un verset que je vais vous lire dans Jean 18, verset 35. Jean 18, verset 35. Pilate, il dit à Jésus, c'est Pilate qui dit à Jésus, « Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? » Jésus va dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Qu'est-ce que la vérité? Et ce doute-là, il ne date pas d'hier. Pilate dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Il y a 2000 ans, Pilate pose la question au Seigneur, « Qu'est-ce que la vérité? » Parce que Jésus vient de dire, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Et pourquoi est-ce que Pilate pose cette question-là? C'est pas parce qu'il ne pense pas que la vérité ne peut pas se trouver. C'est parce que la vérité coûte cher. Pour Pilate, si c'était vrai que Jésus était venu rendre témoignage à la vérité, ça voulait dire qu'il était en train de condamner notre Dieu. Fait cher. Il était en train de condamner un vrai roi, le roi des Juifs. Et donc, il ne voulait pas être coupable de condamner un homme juste. Et il réalisait qu'il ferait quelque chose de très grave si c'était vrai qu'est-ce que Jésus disait. Et donc, la fusible a sauté, et il a dit, qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, mon message, là, ça va être le but de mon message. À la fin de mon message, vous devriez être capable, peut-être avec moi, de mieux saisir l'ère dans laquelle on est, le postmodernisme. Puis, désirer demeurer dans la vérité, puis peut-être réaliser que, dans le fond, l'histoire qu'on a fait du sens à cause de notre intro, à cause de notre conclu, puis parce que dans cette histoire-là, c'est pas une histoire qu'on se raconte, mais c'est un méta-narratif, c'est quelque chose qui nous est raconté par Dieu. Donc, Dieu nous donne un sens aussi. Je voudrais qu'on réalise, puis qu'on ne prenne pas pour acquis à la fin de 2017, début 2018, que dans une société où ce que les absolus n'existent plus, vous avez le privilège d'avoir la Bible, puis surtout de la croire, puis d'avoir cru en Dieu, puis dans la vérité. Je veux aussi qu'on prenne conscience de dans quel genre de monde qu'on est, parce que c'est ce qui va nous aider à être gardiens de cette vérité-là, puis à être les porteurs de cette vérité-là aussi. Donc, est-ce que c'est important, la vérité? Est-ce que c'est important, ça? Ben non, c'est pas important, ça. Dans le fond, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. C'est-tu important, le concept de « est-ce que la vérité existe en tant que vérité? » C'est super important. On a juste à demander à une femme qui vient de se fiancer si c'est important ou non que la promesse qui lui a été faite soit vraie. On a juste besoin de demander à un chrétien qui a tout misé, lui, parce qu'il a cru que le Seigneur Jésus était venu, qu'il était mort, il avait historiquement été un vrai personnage, qui n'est pas juste un personnage, il est Dieu, fait homme, il est mort, il est ressuscité. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, si la résurrection n'est pas vraie, on est les plus malheureux de tous les hommes. On est les plus malheureux parce que nous autres, on croit, puis on met notre vie sur le fait que Jésus est ressuscité, puis un jour on va être ressuscité avec lui. Fait que la notion de vérité est super importante. Donc, les questions comme « Pourquoi je suis ici? » Pourquoi il y a du mal dans le monde? Qu'est-ce que le mal? Quelle est la solution au mal dans le monde? Il y a quoi après? C'est assez flagrant quand quelqu'un meurt puis que je me retrouve à son chevet. Comment, même quand la famille ne me connaît pas, j'ai vu les familles se mettre sur le long du mur puis dire, vas-y. Pourquoi? Parce que pour nous autres, les chrétiens, on croit qu'il y a quelque chose après la mort. On sait comment traverser l'autre côté, si on peut dire. Puis, on est sûr de nos certitudes, tu sais. Mais quand tu arrives à la mort, tu te doutes aussi de tes doutes. Puis, les gens, ils se tassent parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur entre l'intro et la conclusion. Ils ont plein de choses à dire sur qu'est-ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Mais quand vient le après, après cette histoire-là, là, les certitudes sont ébranlées. T'sais. Donc, sans la vérité, on ne sait pas ni d'où on vient, ni qui on est. Il y avait des matelots de l'armée, là, qui, des soldats qui étaient leur bateau était accosté dans le coin de Londres, en Angleterre, puis ils s'en vont dans un bar, puis ils prennent une coupe de bière, puis assez pour être un petit peu titubant. Puis il y avait beaucoup de brouillard ce soir-là. Puis à un moment donné, les gars, ils ne savent même plus où ils sont, puis ils voient un homme apparaître au milieu de la brume, puis ils disent « Hey, monsieur, il dit, est-ce que vous savez où on est? » Puis lui, c'est un big boss, puis il dit « Savez-vous qui je suis? » Fait que son chum disait « Crème, on est mal pris. » Il dit « Nous autres, on ne sait pas où ce qu'on est, puis lui, il ne sait pas qui est. » Mais c'est un petit peu ça. On est exactement dans une ère de la société où on ne sait pas qui on est, puis on ne sait pas où ce qu'on s'en va. Et donc, je vais vous donner en un petit graphique l'histoire un peu de la pensée moderne depuis à peu près les années médiévales. Presque le médiéval, c'est une grande partie de l'histoire de la pensée qu'on a moderne aujourd'hui, c'était le rationalisme. On croyait qu'on pouvait comprendre la vérité, qu'on pouvait mettre ça dans une boîte. Puis est arrivé plus tard dans l'histoire de la pensée moderne, il y a eu l'empirisme. Il est arrivé à un moment donné, dans les années 18e siècle, 19e siècle, l'ère de l'industrialisation, où ce qu'on s'est dit, juste avant Darwin, 1836, Darwin, un petit peu avant, on commence à produire, puis l'ère industrielle, la question, c'est plus, on ne veut pas savoir pourquoi, on veut juste se concentrer sur le comment c'est fait, comment faire pour en faire plus. Et donc, le but de la vie, c'était même pas de savoir d'où ce qu'on venait, où ce qu'on s'en allait, c'était de savoir comment ça marche. Et Darwin, c'est exactement ce qu'il est venu nous expliquer, lui. Si vous connaissez un peu l'origine des espèces ou la théorie du naturalisme de Darwin, dans le fond, c'est un peu ça. Ça se concentre surtout sur le comment tout ça, ça s'est fait, mais il n'y a pas de pourquoi ou de but à la vie. Et est arrivé ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme, c'est né ici entre les deux. Là. C'est cette idée où ce que on ne veut pas savoir pourquoi, on veut juste savoir comment. Puis le postmodernisme, lui, il apparaît à la fin. Lui, ils veulent mettre une date là-dessus, fait qu'ils disent en 89, quand que le mur du communisme, là, le mur de Berlin est tombé. Le postmodernisme. Qu'est-ce que le postmodernisme veut faire? En tout cas, c'est pas grave, je ne peux pas donner beaucoup de détails, puis je ne suis pas très connaissant. J'ai lu pas mal depuis cet été sur ces courants de pensée-là, là, mais pas assez pour faire un message. Mais le postmodernisme, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut enlever la notion de bien et mal. Ça veut essayer de dire qu'il n'y a plus rien qui est mal ou qui est, tu sais, c'est bien pour toi. Il y a cette idée d'enlever toutes les cloisons qui définissent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et il y a un grand re-questionnement aussi sur l'autorité. Parce que depuis l'ère industrielle, ici, là, il y a l'idée que les intellectuels les dirigeaient sur le peuple peu connaissant. Il y a eu les croisades au nom d'une vérité. Fait que l'homme, dans la plupart des cours de philosophie que j'ai suivis, là, tu vois que l'humanisme même, c'est l'humanisme. Les pères de l'humanisme disaient, je disais ça cet été, c'est on peut penser par nous-mêmes, puis on n'a pas besoin d'une autorité sur notre vie pour nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Grosso modo, dans la plupart des courants de pensée, il y a cette idée de je peux me définir moi-même, je peux définir moi-même qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est, etc. Donc, cette idée de mal et bien, on veut enlever cette notion-là, le vrai et le faux, on veut enlever ça. C'est pour ça que le chrétien aujourd'hui qui dit, moi je pense que la vérité existe, il y a de là vraiment, il ne matche pas. Il ne matche pas dans la société actuelle parce qu'il rentre trop en contraste dans ce que le postmodernisme essaye de faire. En 1970, Modridge a dit ceci. Il dit, il est devenu abondamment clair que vers la deuxième moitié du 20e siècle, l'homme occidental a décidé de s'abolir lui-même. S'étant tanné de lutter pour être lui-même, il a créé son propre ennui à partir de sa propre affluence, sa propre impuissance à partir de son érotomanie. Je vais le définir tantôt. Sa propre vulnérabilité à partir de sa force, jusqu'à s'être éduqué à devenir imbécile, s'être pollué et drogué à stupéfaction, il se met à genoux sur un brontosaure fatigué et battu, il s'éteint. Fait que ça, déjà, c'était écrit en l'an 70. Je vais le reprendre un petit peu plus doucement, puis je vais le commenter. Donc, ça fait à peu près plus de 50 ans, à peu près donc à la moitié du siècle, Muldridge dit que l'homme, à cause qu'il veut être lui-même, il s'est aboli. Okay. Il s'est tanné, après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est aboli lui-même. S'est tanné de lutter pour être lui-même, il a créé son propre ennui à partir de sa propre affluence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme s'est tanné de son importance. L'affluence, c'est l'importance. Il s'est tanné de son importance, puis qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a créé son propre ennui. C'est quoi son importance? Son importance, c'est qu'il est l'objet de l'amour de Dieu, que la vérité existe, qu'il a une valeur. Mais à partir du moment où tu enlèves son introduction, comme tu disais, ou sa conclusion, tu as enlevé aussi, comme disait Ben, son but. Et donc, en voulant être quelqu'un, en disant hey, « moi, j'ai pas besoin d'une autorité sur moi, moi, j'ai pas besoin de Dieu sur ma vie », en voulant, il s'est tanné pour être lui-même, il a créé son propre ennui à partir de sa propre affluence. En voulant être important, finalement, il a créé sa propre ennui. Il a créé son impuissance à partir de son ératomie. Qu'est-ce que c'est, ça, une ératomie? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est quoi, une ératomie? Érotomanie. Excusez. Vous dites qui savent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'imagine qu'il y a une vedette qui l'aime. C'est des gens qui sont persuadés qu'il y a une histoire d'amour là, entre eux et quelqu'un de bien, bien populaire, mais la personne ne la connaît pas, tu sais. Sa force, l'homme, il pense que sa force au 20e siècle, c'est de penser par lui-même. Est-ce que vous pensez ça? Un ado qui quitte le foyer, qui dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, ma force, c'est d'être moi-même. Crime, il revient à la maison. Mon Dieu, c'était bon, hein, manger à la maison. Puis, on était-tu bien quand t'es chez nous? » Ben, il y a une... c'est quoi le film qu'on avait regardé, là? Ils voulaient se débarrasser de leurs parents. Là. Dans Jimmy Neutron, à un moment donné, les jeunes, ils ont comme... C'est quoi? Comment ça arrive? Je ne sais pas trop, mais ils font enlever leurs parents par des martiens. Puis là, ils commencent. Ils mangent de la crème glacée. Ils mangent toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis ils tombent bien, bien malades. Puis à un moment donné, ils sont comme... Qui va faire à manger? Tu sais, qui va nous faire à manger? Puis là, ils réalisent que, voulant être autonomes, ils ont perdu quelque chose de très riche. Et ici, c'est un peu ça ici qui est arrivé, c'est que sa force, il pense, lui, l'humanisme des temps modernes, il pense que sa force, c'est de penser par lui-même, pas besoin d'une autorité pour lui dire quoi faire, mais c'est sa vulnérabilité en fait. Il a créé sa propre vulnérabilité à partir de sa force. Et plus il s'éduque, mais il enlève Dieu de l'équation, et Muldridge dit, il s'en est éduqué à en devenir imbécile. Et puisqu'il n'y a pas d'introduction ni de conclusion, puisqu'il n'y a pas de sens à la vie, il s'est pollué, il a pollué sa terre, puis il a drogué son corps. Il a détruit son corps. Pourquoi? Il n'y a pas de sens. Fait qu'il a cherché à aller dans les plaisirs de la vie, il a abusé de lui-même parce qu'il n'y avait pas de sens à sa vie. Donc, c'est un peu ce qu'on voit. Tu regardes juste les reportages sur comment ils balayent le fond des mers pour aller chercher le sable, pour nous faire des buildings, pour nous faire de la haute technologie. Puis il y a des îles complètes en Océanie qui sont en train de complètement d'être mises sous l'eau parce qu'on vide le centre des océans. On détruit toute la flore marine. Pourquoi? Plus. Produire. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais être mort, il n'y aura plus rien après. Il faut en profiter maintenant. C'est le temps de faire du profit. C'est le temps d'en tirer au maximum de la vie. Mais c'est ce qui est devenu notre force, c'est devenu notre vulnérabilité. Puis il dit, on s'est drogué Puis puis ça, c'est des années 70, fait que c'est encore plus peace-là, là, tu sais. On a pollué, on s'est drogué à satisfaction, et à la fin, cet homme-là se met à genoux sur un brontosaure fatigué et battu, et il s'éteint. Le brontosaure, c'est quoi? La vérité existe. La vérité existe, puis on s'est battu toute notre vie contre ça. Paul, il dit autrement dans Romains 1, « Et boy! » Tu lis ça, Steph? Es-tu capable de lire ça? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est éternellement béni. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Juliane, il y a un auteur. Ça prend un auteur pour avoir une histoire, ça prend un auteur. Donc, n'ayant pas servi le Créateur, ils ont servi la créature. Donc, enlève l'introduction, enlève la conclusion, enlève l'auteur. Qu'est-ce qui reste? Se servir nous-mêmes dans la création. Et c'est exactement ce que l'autre auteur nous disait, qui est très bien reflété ici dans la Bible. À un moment donné, un jeune va arriver à la maison, un jeune de 13 ans va dire à son père, « Je te présente mon conjoint homosexuel. » Et la réponse de l'enfant, de l'adolescent, ça va être de dire, « Bien, tout le monde dit que c'est correct. » Oui, parce qu'on est justement dans un monde où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, puis ce qui compte, à la limite, tu sais, il y a de la place pour les transgenres, il y a de la place pour les personnes homosexuelles, donc il y a de la place aussi pour les chrétiens. Parce que tout le monde a sa petite vérité, tout le monde a son... Il n'y a rien qui est mal vraiment, tout est correct. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est rendu avec transgenre? À cette heure, un genre, ce n'est pas dicté par ta naissance, c'est dicté par ton choix. C'est-à-dire que si tu décides, toi, si tu t'en vas à une place et tu dis, hey, excusez, pouvez-vous m'enlever le nez? Ils vont t'envoyer en psychiatrie pour ça. Mais si tu dis « Enlève-moi mon sexe, puis mets-moi-en un de fille », ils vont dire « Ça, il faut te respecter. » Pourquoi que l'homme il a besoin de se définir comme ça? Pourquoi on lui laisse ce privilège-là? Il laisse ce privilège-là parce qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion à notre histoire. Puis notre histoire, c'est comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller, j'avais dormi un après-midi au collège. C'était une des rares fois que j'étais resté à l'école pendant que tous les élèves n'étaient pas là. Puis je me suis levé et je me sentais seul dans le monde. Comme si il y avait, tu sais, comme Mad Max. Là, tu sais, tout le monde était parti. Tu sais. Et cette détresse d'être là au milieu de comme du néant, bien, c'est exactement ce que l'homme il vit. OK? Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. C'est ça. Pourquoi en étrangeant? Dans le fond, pourquoi on en parle même? Pourquoi ça fait du sens? Puis que même les gens les plus érudits parlent de ça, puis ils en parlent comme quelque chose dessus. Bien, c'est parce que l'homme, il n'y a pas d'histoire. L'homme doit se réinventer au complet parce qu'ils ont rejeté le concept de la vérité. C'est-tu important la vérité? Crime que c'est important. Tu sais, dans Genèse 3, dans le fond, l'homme et la femme ont dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, le chrétien se fait poser la même question par les gens. Dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle dans la Bible? Et on a la même réponse. On a le même doute qui est encore là aujourd'hui. Pourquoi ce seraient les chrétiens qui ont la vérité? Dans le Jardin d'Éden, pourquoi c'est Dieu qui a la vérité? Okay? Donc, est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui parle dans la Bible? Puis le chrétien dit oui, mais le contemporain dit que tu te prends, toi, chrétien, de dire que Dieu parle par la Bible. quelques caractéristiques du postmodernisme. Il n'y a aucun repère fixe pour les mots. C'est basé, cet argument-là, cette fondation du postmodernisme, sur l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la manière dont on apprend. On va dire que les mots sont instables et qu'un texte peut facilement être pris hors de son contexte et donc les mots ont le sens qu'on veut leur donner. Okay? Et donc, on dit que chacune des personnes est le point de référence de l'interprétation des mots. Fait que moi, je vois ça comme ça, toi, tu vois ça comme ça. Donc, il y a comme un genre d'impossibilité d'arriver à une vérité absolue. Et à cause qu'on a de la misère à s'entendre sur des terminologies ou de la compréhension, on va dire, à cause de ça, la vérité n'existe pas. Okay? Et ça prouve que la rhétorique dépasse la logique. Anthony Freeman, écoutez bien ça, j'ai vraiment allé le relire sur Internet, j'ai allé chercher la citation. Ésaïe dit dans Ésaïe 40, 18 à 20, écoutez bien ça, là c'est l'auteur, M. Freeman, dans son livre « God in Us », qui est humaniste, le monsieur, c'est pas un croyant, il dit ceci. « À qui voulez-vous comparer Dieu? » Ça, c'est Ésaïe. « À quelle image vous ferez-vous son égal? Un ouvrier qui fond l'idole? Et c'est un orfèvre qui couvre d'or et soude des chaînettes d'argent? Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure? Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas? » Ça, c'est Ésaïe 40, 18. Là, l'auteur, il continue. Écoutez bien. Je pense que je l'ai mis ici. Ce que l'auteur de cette pièce splendide, en parlant du livre d'Ésaïe, il dit, ce que l'auteur de cette pièce splendide échoue à réaliser est comment son cas est similaire comme celui du païen qu'il tente de moraliser. L'adorateur d'idoles a construit un dieu avec du bois. L'auteur fait son dieu avec des mots. C'est la seule différence. Ça, c'est le postmodernisme pur. C'est ce que les gens pensent qu'on croit, qu'on s'est fait un Dieu, qu'on s'est fait une vérité, que pour nous, c'est Dieu de la Bible. Puis, Ésaïe, dans le fond, quand il dit Dieu, à quoi me comparez-vous? Est-ce que vous me comparez à quelque chose d'égal, comme à une idole de bois ou d'or? L'auteur, en parlant d'Ésaïe, y échoue, selon M. Freeman, à réaliser que celui qui se fabrique une idole de bois, c'est du bois, tandis qu'Ésaïe, lui, avec quoi il fait son idole, c'est qu'il l'a fait avec des mots. Et la Bible n'est qu'une idole qui fabrique une dévotion à un Dieu qu'on a créé par l'Écriture. Donc, la conclusion de cette idée, c'est qu'on fabrique notre propre idée de la réalité. Nietzsche, qui est souvent, on l'attribue comme étant le père de l'existentialisme, qui était au siècle passé, avant Hitler finalement, il a peur du nihilisme, voilà, en tout cas. Que Dieu est mort finalement. Grosso modo, il a dit Dieu est mort, c'est nous qui avons fait Dieu. Hein? Nietzsche a dit, la vraie vérité à propos de la vérité objective est que la dernière n'est qu'une fiction. Une vérité objective, c'est quelque chose qui est vrai et qui n'a pas besoin qu'on y croit pour exister, OK? Donc, il dit, la vraie vérité à propos de la vérité objective est que la dernière n'est qu'une fiction. Chaque candidat pour la vérité doit d'abord s'exprimer par des mots, et les mots sont incapables de nous mener à la réalité. Les mots, comme un labyrinthe de miroirs, ne reflètent que l'autre miroir d'en face, et finalement pointent en direction de ceux qui les regardent, sans avoir établi rien sur la nature réelle des choses. Donc, les mots ne peuvent pas établir rien sur la nature réelle des choses. Vérité est le mot que nous utilisons pour approuver ce que nous préférons, ce que nous appelons notre interprétation du monde, particulièrement quand nous voulons l'imposer à quelqu'un. Puis écoutez bien, ça, Nietzsche a dit ça, OK? Mais quelques phrases plus tard, il dit, « Mais je suis encore trop pieux que même moi, j'adore à l'autel où le nom de Dieu est vérité. » Il dit, « Ça n'existe pas la vérité, mais je ne prends pas de chance, j'adore encore le Dieu qu'on appelle vérité. » Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il est en train d'avouer? Que oui, les mots sont comme des labyrinthes de mots, Mais au fond de moi, je crois que la vérité existe. Et en croyant que la vérité existe, il est obligé aussi, d'une certaine manière, d'admettre qu'il est en train de renier cette vérité-là en disant qu'elle vraie n'existe pas. En tout cas, j'écoutais Ravi Zacharias, qui est un ministère de défense de la foi, puis il dit l'humanisme, le postmodernisme, c'est des gens qui sont assis sur une branche et puis qui coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Puisqu'en disant que la vérité n'existe pas, est-ce que c'est une vérité, ça? C'est ça. Et pourtant, il travaille très, très fort. Le postmodernisme travaille très, très fort à nous dire que la vérité n'existe pas. C'est une vérité, ça? Vous rappelez-vous de l'image de l'éléphant? Dans le pluralisme, on dit que toutes les religions vont nous mener à Dieu, puis il y a un éléphant, puis là, les lumières sont fermées. Puis là, il y en a un qui touche à la queue, l'autre qui touche à l'oreille, puis l'autre qui touche à la trompe, puis il y en a un qui pense que c'est un serpent, l'autre qui pense que c'est un rhinocéros, l'autre qui pense tout que c'est quelque chose. Puis le pluralisme religieux, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que toutes les religions sont bonnes, c'est juste qu'on ne connaît pas entièrement toute la vérité, donc on a des parcelles de vérité, on a notre vérité. Mais pour que cette illustration-là fonctionne, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait vu l'éléphant en entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'éléphant en entier? Personne. Donc, encore une fois, ce n'est que des... ça tient sur pas grand-chose. Je vais finir avec deux petits points. Le narratif remplace la logique. Donc, l'idée ici, c'est que tout le monde a le droit à son histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans l'ère vraiment où des histoires, c'est pour ça que vous allez voir tous les témoignages, ça marche beaucoup. Quand on veut annoncer l'Évangile par des histoires, hein. Même la publicité, c'est raconter des histoires. Tu sais. Une publicité d'automobile, c'est une histoire qui est racontée. On est dans les histoires. Et les histoires remplacent la logique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'expérimenter. Le problème avec ça, c'est que la fondation même de la logique est attaquée parce que si tu as vécu une expérience, puis j'ai vécu une expérience, est-ce que des expériences peuvent se contredire? Non, moi je l'ai vécu comme ça. Il n'y a pas possibilité d'argumenter avec des gens qui placent l'expérience comme plus importante que la logique. Il n'y a pas de place pour le débat, il n'y a pas de place pour l'argumentation. Puis le dernier, il n'y a pas de guide pour trouver un sens. Donc s'il n'y a pas d'intro, pas de fin, pas d'auteur, il n'y a pas de sens entre les deux. L'histoire a fait pas de sens. Donc, il n'y a pas de guide pour trouver un sens. Dernièrement, je lisais un livre d'une auteure postmoderne qui s'appelle Natalie Northam. Elle a écrit un livre qui s'appelle Terreur et tremblement, je pense. Puis l'idée, c'est qu'elle, dans le fond, là, son objectif dans la vie, c'est qu'elle est née au Japon quand elle était petite. Elle est allée rester en Chine, mais elle, c'est une Belge. Puis elle était bien gros déçue en Chine. Puis là, elle est revenue au Japon comme jeune adulte. Puis elle a dit, là, elle dit, je vais être une Japonaise jusqu'au bout des ongles. Puis elle rentre dans une grande compagnie qui, elle va être brisée. Tout le long, elle va être brisée. On va lui montrer c'est qui commande. T'sais. Puis elle va être brisée en tant que personne. Puis surtout son rêve. Puis là, même tout mon travail final que je devais rédiger, c'était montrer comment sa quête d'identité a échoué et comment elle a réussi à trouver une autre quête au travers de cette quête-là. Puis au travers du livre, ben là, il fallait que je trouve que Madame Northam, c'est quoi son prénom? N'écoutez pas quand je parle. En tout cas, cette auteure-là, Amélie Northam, finalement, elle se fait détruire. Puis elle, là, elle était engagée pour être une interprète, puis elle finit aux toilettes. T'sais. Elle finit préposée des toilettes, puis on la brise tout le long, Mais on voit ressurgir de cette femme-là un auteur qui est capable de se jeter dans l'imaginaire quand elle vit quelque chose de difficile, puis de tourner au ridicule, puis faire des scénarios dans sa tête. T'sais. Puis là, il faut montrer que même si toute la vie l'a détruit, tu sais, elle a su se trouver un sens à son identité. Puis le postmodernisme, c'est beaucoup ça. C'est l'idée, c'est d'essayer de trouver un sens. Parce que il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de fin, puis il n'y a pas de sens entre les deux. Puis la vie, elle a du sens que si tu y en donnes. Puis je veux qu'on finisse 2017 en réalisant qu'on n'a pas à chercher un sens, ni à donner un sens. Ce n'est pas mes notes à l'école, ce n'est pas combien je vais avoir gagné qui donne un sens à ma vie, c'est que Dieu m'aime, il a l'auteur de ma vie, il y a une raison pourquoi il m'a placé sur la terre, puis en plus, la maladie, puis toutes les autres affaires qui arrivent entre les deux, Dieu lui donne un sens, parce qu'il n'est pas juste l'auteur, il est participant dans cette histoire-là. Fait que c'est un privilège qu'on a d'avoir la vérité avec un grand V. Puis Paul va dire dans Philippiens 3, il va dire ceci. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » De moi, Jésus-Christ s'est emparé. Donc, on est, je ne sais pas si vous savez privilégié, mais naître dans 2000, dans ces années-ci, là, quand que tout, il n'y a plus de vérité, là, puis de comprendre que oui, il y a quelque chose qui s'appelle la vérité, c'est Jésus-Christ. Qu'il y a un auteur, puis que Dieu peut donner un sens à n'importe quoi que je vis entre le début et la fin de l'histoire, bien, c'est un privilège. Et je voulais qu'on finisse l'année avec un message comme ça, qui nous fait réaliser. Dans Proverbe 30, c'est écrit « Acquiert la vérité, ne l'avant pas ». C'est tout un privilège qu'on a. Fait qu'avec la préparation que j'avais, avec le temps que j'avais, c'était ça que j'ai pu vous donner ce soir. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir placés sur la planète Terre. Merci aussi que tu écris l'histoire avec nous. Merci Seigneur que la vérité existe, puis même si la vérité comme Pilate, c'est dur à avaler, parce que ça veut dire aussi que ça l'implique quelque chose. On va avoir à faire face à toi un jour. Et donc la vérité, elle implique aussi quelque chose d'important. Je te prie qu'on puisse être des chercheurs de vérité et des amoureux de cette vérité-là. En 2018, Seigneur, je te prie qu'on puisse se rapprocher de toi et de ta parole. On puisse encore mieux connaître celui qui nous a sauvés et qui nous attend à la fin de l'histoire. Amen. Yes.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.